Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Pratiquement 8 ans après les attentats de janvier 2015, qui avaient ému une bonne partie de la France, pour ne pas dire la totalité, mais on va en parler avec vous, Richard Malka, bonjour.
Bonjour.
Où en sont le droit au blasphème, la liberté d'expression? Vous publiez Traité sur l'intolérance aux éditions Grasset, votre plaidoirie lors de ce procès des attentats contre Charlie Hebdo, notamment, avait marqué les esprits. Il y a une longue parenté entre Charlie Hebdo et vous, puisque vous avez rédigé les statuts du journal alors que vous étiez tout jeune avocat en 1992. Depuis ce moment-là, depuis les différents procès, puisque vous avez participé au premier procès et au sujet des caricatures de Mahomet, qu'est-ce que vous avez appris sur les terroristes, sur ceux qui les arment pratiquement et intellectuellement ?
D'abord, dans l'histoire de Charlie Hebdo, il y a eu quand même 25 ans sans terreur, au cours de 25 ans au cours desquels je ne m'interrogeais pas sur ce phénomène de terrorisme, puisqu'entre 1992 et 2015, heureusement, il ne s'est rien passé, même si on sentait que l'atmosphère se tendait autour de nous. Depuis 2015 et ces deux procès sur les attentats en première instance et en appel, évidemment, j'ai dû beaucoup réfléchir. Donc j'ai essayé de prendre ces questions de liberté d'expression, de blasphème sous un angle juridique, philosophique, historique. C'était le thème de ma première plaidoirie. Et puis j'ai voulu aller plus loin et j'ai voulu aller au fond des choses que vous évoquez, et donc parler de religion. Parce que si l'on veut combattre le terrorisme, eh bien je crois qu'il faut combattre le fanatisme et la vision intégriste de la religion. Alors qu'est-ce que j'ai appris sur ces terroristes ? Eh bien j'ai appris qu'ils étaient le produit de mensonges multiples et qu'ils étaient les marionnettes de marionnettistes qui... par le passé ou aujourd'hui encore, tire les fils idéologiques et théologiques des instruments qu'ils sont. Ces terroristes ne sont pas très intéressants en tant que tels. Par contre, ces idéologues sont intéressants. Et pour combattre, si l'on veut combattre utilement le terrorisme et plus largement le fanatisme, l'obscurantisme, eh bien, il faut avoir un discours idéologique, un humanisme militant, pour reprendre les termes de Thomas Mann, intransigeant sur nos valeurs républicaines, un amour de la liberté d'expression, parce que c'est notre arme principale contre cette vision fanatique qui produit le terrorisme, et qu'il faut aussi diffuser de la connaissance sur l'islam, et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre, parce qu'il n'y a pas qu'une vision de l'islam.
En décrivant notamment ce que vous avez appelé l'islam des Kouachi. Qu'est-ce que l'islam des Kouachi, Richard Malka ?
Oh, on peut remonter au 7e siècle. C'est un islam de la soumission, de l'obéissance, du refus de la réflexion. C'est un islam du refus de la raison, du refus de la liberté humaine. C'est l'islam des littéralistes, alors qu'il plonge ses racines dans une discorde théologique qui a lieu au 8e siècle et qui oppose les Hanbalites, dont les Wahhabites et les Salafis seront les héritiers les plus extrémistes, et qui considèrent que le Coran est incréé, c'est-à-dire qu'il vient directement du ciel, que ce sont les paroles d'Allah sans médiation d'un homme, et que donc on ne peut pas les interpréter, qu'il faut les appliquer comme tels, sans se demander ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui relève de la raison, ce qui ne l'est pas. Et dans cette vision de l'islam, évidemment, toute réflexion est suspicieuse et on en reste à un islam figé, immuable, au 7e siècle. Et cet islam se base sur les versets du Coran qui sont les plus guerriers, parce que le Coran comporte des versets, il y a deux Corans, le Coran de Mekwa et le Coran médinois, le Coran primitif où Mahomet séduisait, n'était pas encore aux commandes du gouvernement, donc c'est un Coran très poétique, parfois très révolutionnaire. Il n'y a pas de contrainte en religion. Ou alors avec des versets très beaux, comme ce verset 99 de la sourate 10, « Si le Seigneur l'avait voulu, tous les habitants de la terre auraient cru. » Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ? Mais cela, ils l'oublient, ils l'abrogent et ils retiennent le verset, le Coran de Médine, c'est-à-dire un Coran très directif où là, Mahomet est aux commandes de la ville de Médine, avec des versets guerriers comme le verset de l'épée qui est le fondement de du djihad. Et donc ils choisissent, et c'est un choix humain, c'est un choix de libre arbitre, un Coran fermé, un Coran du refus de l'interprétation, de l'abrogation de tout ce qu'il y a de pacifique dans le Coran, pour mener des guerres et pour interdire l'expression d'autres visions que la leur.
Richard Malka, dans ce traité sur l'intolérance que vous publiez aux éditions Grasset, vous rappelez qu'il n'y a pas le mot blasphème dans le Coran et que si un musulman entend quelqu'un blasphémer, eh bien, il a une attitude à tenir qui n'est pas celle à laquelle les frères...
La seule sanction qui est prévue dans le Coran, c'est de quitter la conversation et de revenir quand c'est fini. C'est tout. Pour le reste, c'est Dieu qui s'en charge au ciel. Comme souvent dans le Coran, les sanctions sont eschatologiques. Allah est le maître de la vengeance. C'est lui qui décide des châtiments. Ça se règle au ciel. C'est pas aux hommes de procéder à la vengeance. L'homme, il doit quitter la conversation et revenir ensuite. On est dans une société médiévale de l'oralité. Tout le monde passe son temps à se moquer des uns des autres et de manière assez imagée. On a passé son temps à se moquer du prophète durant sa vie. Le Coran en atteste, on le traite de tous les noms, faux prophète, imposteur, sorcier, châtré parce qu'il n'a pas de fils âgé. On ne tue pas pour cela, sinon tout le monde serait mort dans ces sociétés-là.
Donc on a eu affaire à une sorte d'involution, puisque finalement, par rapport à cette querelle primitive, cette querelle théologique primitive que vous situez donc au 7e siècle en Irak, eh bien, par rapport à cette querelle-là, c'est une forme d'islam qui s'est emparée, par exemple, des Kouachis ou que les Kouachis ont choisi et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, des attentats sont commis, perpétrés au nom de cet islam-là.
Absolument, c'est une longue évolution et c'est en fait pendant 1400 ans, il y a eu un mouvement de balancier entre ces deux islams, l'autre étant représenté par ces multiples philosophes que vous connaissez tous, les inventeurs de la médecine, de la chimie, ceux qui ont conservé les lumières pendant que l'Europe était dans l'obscurité, illustrés évidemment par ces fameux mutazilites qui, eux, c'est la première école théologique du Coran posée comme premier fondement de l'islam, la raison, la liberté humaine, qui ont conservé les lumières quand l'Europe était dans l'obscurité, qui c'était un mouvement incroyable, qui était révolutionnaire à l'époque, qui le serait encore aujourd'hui, qui a influencé lourdement les religions juives. Il y avait des juifs mutazilites, le judaïsme était en train de se réformer à cette époque et en train de réinterpréter la Torah. C'était un mouvement qui a duré quand même plusieurs siècle et qui s'est fortement opposé et victorieusement au début au mouvement radical, qui a d'ailleurs provoqué en réaction ce mouvement radical. Et y a un mouvement de balancier entre ces deux mouvements pendant 1400 ans. Et ce que je crains, c'est qu'aujourd'hui, je vois le mouvement radical gagner des parts de marché un peu partout dans le monde.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'islam, ce que vous appelez l'islam des ténèbres, a emporté la victoire par rapport à l'islam des lumières, selon vous, Richard ?
En tout cas, c'est ce qui produit l'attentat de Charlie Hebdo. C'est ce qui fait que Ivan Colonna a été étouffé parce qu'il a mal parlé du prophète. Je parle de son agresseur. C'est ce qui fait qu'en Angleterre, on ne peut pas produire un film qui historicise l'islam sans aucune polémique. On ne peut pas faire d'études sur l'islam.
Vous rappelez cela, Richard Malka, justement. Vous dites que l'historicisation est aujourd'hui perçu par certains comme un crime.
Mais bien sûr. Et là, on voit l'obscurantisme arriver. Si on n'historicise pas, si on ne fait pas d'études sur la vie de Mahomet, sur qu'est-ce que voulaient dire les mots du Coran au moment où ils ont été dits, d'un point de vue historique, d'un point de vue anthropologique, alors on est dans la sacralisation et on est dans l'idolâtrie. Et c'est ce que redoute, en fait. C'est pourquoi la liberté d'expression, c'est si important? Parce que c'est l'arme qui permettrait de renverser le monde de ces fanatiques. Parce qu'en réalité, leur monde n'a jamais existé. Et c'est un monde de fantasmes qui n'a existé que dans leur cerveau. Je prends un exemple sur les femmes. La seule chose que dit Mahomet à propos des femmes et de leurs vêtements, c'est qu'elles doivent couvrir leur poitrine. On est au 7e siècle, c'est quand même assez soft. Mahomet a commencé en étant employé de Khadija, femme d'affaires, sa première épouse. Et aujourd'hui, les talibans nous expliquent que les femmes, non seulement ne peuvent pas travailler, mais ne peuvent même pas aller à l'université. Qui défigure le Coran ? C'est pas Charlie Hebdo. Les femmes ont une place extrêmement importante dans le Coran. Mais je prends cette question de la femme. Je peux, sur la question du blasphème, vous l'avez évoqué, ça n'existe pas. On ne tue pas pour une moquerie dans le Coran. En fait, toutes ces interprétations se basent sur une théorie de l'abrogation qui a été faite 150 ans après le prophète et où on a dit, bah alors tous les versets pacifiques du Coran, on les abroge pour retenir les versets guerriers. Mais parce qu'on est passé à une logique d'empire, des abbassides qui, eux, voulaient constituer un empire qui était en expansion et qu'ils avaient besoin d'un texte belliqueux. Mais ce sont les hommes qui ont décidé de cela. Il y a d'autres, et j'en aurai fini, je pense à Mohamed Taha, un théologien, homme politique soudanais du XXe siècle, qui lui avait une interprétation contraire et qui disait que ce qu'il y a d'universel dans le Coran, c'est le Coran mécois, c'est le Coran des débuts. Qu'ensuite, c'est un Coran de gouvernement qui ne vaut que pour une époque donnée, pour un lieu donné, à Médine au 7e siècle. Et donc, qu'il n'y avait pas lieu à abrogation et qu'au contraire, c'est les versets universels qu'il faut garder. Pourquoi on ne dit pas cela ? Pourquoi on n'analyse pas l'islam au regard du paradigme de ce verset que je vous ai cité, il n'y a pas de contrainte en religion, et qu'on l'analyse plutôt sous l'angle du verset de l'épée ?
Mais alors, cela, et vous le rappelez, Richard Malka, est le cas dans toutes les religions, puisque dans le judaïsme, par exemple, vous le dites dans votre traité sur l'intolérance que vous publiez aux éditions Grasset, et bien par exemple, un enfant qui parle mal à ses parents bien doit sûr. Être lapidé. Bien Pourquoi sûr. Ce verset n'est-il, Dieu merci, pas Mais appliqué
si on étudie les textes pour ce qu'ils sont, force est de constater que la Torah est en réalité bien plus guerrière que ne l'est le Coran est beaucoup plus claire sur les sanctions. En général, c'est la lapidation pour un enfant qui parle mal à ses parents, pour la femme infidèle, pour le blasphémateur. Il y a beaucoup de causes de lapidation, mais c'est normal puisqu'on est 1000 ans avant. Donc ça correspond à des mœurs encore plus rudes. Sauf que la Torah a été réinterprétée, commentée, adaptée. On peut pas avoir une... Peu importe le texte, le problème c'est est-ce qu'on se laisse la faculté de l'interpréter ? Et là, j'en reviens aux mutazilites et à la discorde initiale que nous payons encore. Les mutazilites considéraient, eux, qu'on pouvait nécessairement interpréter le texte, puisque le Coran n'était pas un créé, mais créé, puisqu'il est passé par la médiation d'un homme. « Je ne suis qu'un homme », dira Mahomet, qu'il a restitué ses paroles selon son temps, selon ses biais cognitifs, et cela, et le Coran qui a été écrit après la mort de Mahomet, sur au moins 70 ans, par de nombreux rédacteurs, et que donc ça laisse un large champ d'appréciation et d'interprétation du texte. Quel que soit le texte, c'est l'interprétation qui compte, c'est les hommes qui font la religion.
Vous dites justement que vous souhaitez que ce discours, votre discours, soit perçu comme un message d'altérité. Le mot islamophobie est-il un mot utile pour protéger contre certaines dérives ou bien au contraire freine-t-il ?
C'est évidemment, vous savez ce que je pense, et je pense comme Salman Rushdie, l'utilité de ce mot n'est fait que pour censurer. Toute critique sur l'islam, toute critique de cette vision de l'islam, c'est un mot qui est fait pour empêcher le débat. C'est un mot qui est fait pour reprendre les mots de Salman Rushdie, pour que les aveugles puissent le rester. C'est un mot qui est fait pour empêcher de mettre en cause cette vision radicale de l'islam. C'est quand même invraisemblable qu'en la critiquant, on soit taxé d'islamophobie.
Mais alors, justement, ça signifie
c'est abandonner les hommes.
Mais alors, ça signifie
c'est accepter la confiscation de la religion par les radicaux et la confiscation de la pensée par les radicaux.
Cela signifie, Richard Malka, que la possibilité de critiquer l'islam est finalement plus facilement offerte en terre d'islam, qu'il est plus facile donc de discuter du Coran, de ses conséquences, de la manière dont celui-ci devrait être théologiquement réformé, parce que le mot islamophobie, là-bas, évidemment, n'a pas cours.
Alors, effectivement, c'est ce dont est venu témoigner l'écrivain syrien devenu français Omar Youssef Souleyman au dernier procès Charlie Hebdo, en lui disant, mais en fait, je suis arrivé en France et j'arrive dans une société où c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une analyse de l'islam, parce qu'on s'est tous suite taxé d'islamophobie, parce qu'il y a ici un arrière-plan sur la colonisation, sur le racisme, qu'il n'y a pas, évidemment, dans les pays arabes. Ceci étant dit, dans les pays arabes, les accusations de mécréance ne sont jamais très loin, et Mohamed Taha, dont je vous parlais tout à l'heure, a fini pendu, comme beaucoup de ceux qui tentent de réformer l'islam. C'est un mouvement ancien, la Nahda, l'éveil. Ça a lieu d'ailleurs en France. Au début du XXe siècle, deux penseurs se retrouvent, Mohamed Abdou, élève de Al-Afghani, Mohamed Abdou va devenir grand moufti d'Égypte. Il rejetait tous les hadiths comme étant faux. Est-ce qu'on le sait aujourd'hui? Est-ce qu'on sait que les hadiths qui fondent et qui basent un certain nombre d'actions terroristes, qui sont utilisées à tort et à travers par les prédicateurs d'Internet pour raconter n'importe quoi sur l'islam, il y en a 500 000, que 95% ont été déclarés faux, qu'à chaque fois que quelqu'un vient vous parler d'un hadith, vous êtes absolument certain qu'un autre pourrait vous parler d'un hadith contraire, que les coranistes les rejettent en bloc, que Mohamed Abdou, donc ce grand moufti qui n'est pas moins musulman que n'importe qui, les rejetait en bloc, que le frère de Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, considérait que c'était une tragédie pour l'islam, ces hadiths. Les hadiths, il faut savoir que ce sont des chaînes de transmission qui permettent d'attester de paroles ou de comportements du prophète, mais ça peut se dérouler sur 3 siècles, sur 5 ans. La mémoire humaine ne peut pas restituer quelque chose dans sa vérité. Et là, 3 siècles après, c'est la tribu de « il m'a été rapporté que ». C'est Gamal al-Banna qui les nomme ainsi.
8 ans après les attentats, notamment contre Charlie Hebdo, Richard Malka, vous voulez faire le procès de la religion, vous le faites dans ce traité sur l'intolérance que vous publiez aux éditions Grasset, mais justement, l'islam a un dynamisme que les autres religions n'ont pas. Par exemple, si l'on voit aujourd'hui la chrétienté, comment vous l'expliquez?
L'islam propose une transcendance forte, là où il n'y en a plus beaucoup. Et les gens ont besoin de transcendance. L'être humain a besoin de croire à plus grand que soi. C'est une religion qui propose un plus grand que soi. Et en temps obscur, eh bien, on en a besoin. Voilà, je l'explique ainsi.
En construisant aussi une forme d'hétérodoxie, puisque ces jeunes, vous parlez de l'islam des Kouachi, mais justement, le fait que, là, en l'occurrence, ce soit des jeunes à la dérive qui aient épousé cette vision-là, ça signifie qu'il y a une orthodoxie qui les a attirés, ou alors une sorte de mal, ce qui est considéré, ce qui est stigmatisé comme étant le mal à juste titre ou pas, eh bien, c'est ça qui les a attirés.
Oui, et c'est tout le danger de l'époque actuelle. Je pense qu'on n'en sortira pas si on ne propose pas, nous non plus, nous aussi plutôt, une transcendance. Quelque chose qui soit plus grand. Il y a plus grand chose. L'Europe, ça fait plus rêver personne. Le communisme n'existe plus. Le capitalisme, ça fait plus rêver. Donc effectivement, si on n'oppose rien à cela, si on n'oppose pas une autre vision, qu'elle soit républicaine, qu'elle soit humaniste, qu'elle soit musulmane, pour ce qui est des musulmans, parce que c'est un fait acquis, ça existe, eh bien, effectivement, on va au-devant de gros problèmes. Donc, Richard, il faut penser et il faut s'exprimer.
Richard Malka, Traité sur l'intolérance, le livre que vous publiez aux éditions Grasset. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On évoquera d'ailleurs les critiques, les injures aussi prononcées contre l'islam. Je pense par exemple à celle proféré par l'écrivain Michel Houellebecq, puisque la Grande Mosquée de Paris a annoncé porter plainte contre l'écrivain. 8h sur France Culture.
7h-9h. Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
8h21, Richard Malka, vous êtes notamment l'avocat de Charlie Hebdo. Vous publiez Traité sur l'intolérance aux éditions Grasset, 8 ans après les attentats qui ont visé l'hebdomadaire, avec un numéro anniversaire qui va sortir demain en kiosque. L'hebdomadaire satirique a choisi de soutenir les Iraniennes et les Iraniens et d'infliger, je cite, une raclée au mollah. Selon les termes de la une, votre réaction par rapport donc au poids aujourd'hui que l'Iran a, notamment dans ce journal, mais aussi dans le discours public en France.
Écoutez, d'abord, je voudrais rendre hommage à mes amis de Charlie Hebdo. On est 8 ans après l'attentat. Et je voudrais peut-être spécialement parler de Rhys et de Gérard Biard, mes amis depuis si longtemps. Les autres comprendront qu'en raison de l'ancienneté de cette amitié, je les cite. Faut leur rendre hommage parce que ce journal s'est réinventé dans des conditions incroyables. Il existe toujours. Il est utile, il est toujours un journal de résistance, de parole libre, de résistance à l'air du temps, de combat pour les libertés. Ce qu'ils font sur l'Iran est merveilleux et ils ont bien raison parce que c'est pour moi le seul motif d'espoir dans le monde actuel. Ce qui se passe en Iran est essentiel pour le monde entier, pour le sujet que
Pourquoi
nous allons traiter sur l'évolution de l'islam. Parce que vous disiez tout à l'heure, par ailleurs, qu'il y avait un phénomène d'adhésion à l'islam. Mais il y a aussi un phénomène de désaffection de l'islam. Parce que si l'islam, ce n'est que contrainte, ce n'est que voile, burkini et pas de musique et je ne sais quoi, les jeunes vont... Ça, c'est tellement décorrélé de la modernité, du monde actuel, parce que figé il y a 1400 ans, que les jeunes s'en détourneront. Et c'est ce qui se passe en Iran. Et ces jeunes femmes remettent les pendules à l'heure et nous donnent bien des leçons. Elles évoluent cheveux au vent et elles risquent leur vie pour ça, en enlevant leur voile. Et les jeunes garçons risquent leur vie aussi et sont condamnés à mort et sont exécutés. Ils nous donnent un sacré modèle de courage. Et ce qui se passe dans l'Iran chiite, qui a toujours été un modèle de réflexion, c'est une société millénaire. Avec une tradition philosophique, lettrée, de séparation de l'Église et de l'État. Je rappelle d'ailleurs qu'Ali Sistani, le plus grand imam chiite, parce que Khomeini et Khamenei sont des escrocs de la religion. Ils étaient considérés par les chiites eux-mêmes comme de très mauvais religieux. Ali Sistani a un discours extrêmement clair sur la séparation de l'Église et de l'État. Il a un discours laïque.
Richard Malka,
et donc ce qui se passe en Iran est essentiel.
La campagne, par exemple, d'Amnesty International aux États-Unis, qui consiste à dire qu'il faut laisser les femmes s'habiller comme elles le veulent, porter un voile si elles le souhaitent à Paris, à New York, et ne pas en porter à Téhéran. Qu'est-ce que vous en pensez ?
On voit toutes les contradictions sur ce phénomène. Alors d'abord, personne n'est pour interdire le port du voile dans la rue, et certainement pas moi d'ailleurs. Et c'est un droit, et c'est comme ça. On ne réglemente pas les habits sur la rue, sur l'espace public, ça n'aurait aucun sens. Mais quand je vois quand même une certaine gauche prendre comme symbole la liberté de porter le voile, qui a été inventée par des hommes, bien après Mahomet, dans le cadre d'une société totalement patriarcale qui veut enfermer les femmes, on a même inventé un hadith pour dire qu'il ne fallait surtout pas que les femmes gouvernent un pays, sinon c'était la catastrophe. Mais ça profite à qui ? Évidemment, aux hommes. Alors, je précise que 90% des hadiths ont été déclarés faux par les autorités de l'islam, donc c'est pas moi qui le dis. Donc voilà, c'est un symbole du patriarcat le plus absolu. Une certaine gauche milite pour le droit de porter le voile. Franchement, il y a d'autres combats à gauche à mener.
Justement, les combats, par exemple, de Charlie Hebdo, qui les suit aujourd'hui, selon vous ? Est-ce qu'il y a deux gauches ? Est-ce que Charlie Hebdo se situe désormais ailleurs, selon vous ?
Malheureusement, les deux gauches, il y en a une qui a un peu disparu. La mienne, c'est triste, mais c'est ainsi, la gauche libertaire, universaliste, laïque, je ne sais pas très bien par quelle... Alors, il y a des individualités, mais enfin, quand il n'y a pas d'expression, il n'y a plus d'expression politique, la gauche, cette gauche-là s'est éradiquée elle-même, elle a abandonné son électorat. C'est incroyable, ce phénomène devrait être étudié par les historiens un jour.
Par les historiens ou peut-être aujourd'hui par les sociologues, parce que cela signifie peut-être que pour cette position laïque que vous incarnez, que Charlie Hebdo incarne, il n'y a plus de soutien populaire, il n'y a plus
de soutien jeune. Moi je ne crois pas, l'électorat il est là. C'est la gauche qui ne veut plus de son électorat. le succès de mon précédent livre, c'est pas, je dis ça, pas ça par égocentrisme, enfin, ça a été tiré à 6 000 exemplaires, on finit à 100 000, ça dit quelque chose, bien au-delà de moi. Je suis arrêté chaque jour, dans mes séances de dédicace, j'ai 200 personnes, de gens malheureux, de gauche, des instituteurs, ils tous me disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire vivre ces idées-là? On a l'impression qu'on est seul. J'ai pas l'impression que ça a disparu. Mais par contre, plus personne n'a le courage d'exprimer ce que le peuple français, viscéralement attaché à l'universalisme, à la laïcité et aux libertés, voilà, il y a plus d'expression politique structurée. Il y a des personnalités, il y a Monsieur Cazeneuve, il y a Carole Delgan d'un côté, il y a ce formidable maire de Montpellier de l'autre, il y a mes amis du PRG, mais bon, tout ça, ça fait pas un mouvement qui enthousiasme.
Richard Malka, je l'ai dit dans l'actualité, la Grande Mosquée de Paris a annoncé porter plainte contre Michel Houellebecq, le recteur de la Grande Mosquée, fait référence notamment à une conversation publiée dans la revue Front Populaire, dans laquelle Michel Houellebecq estime, je le cite, que le souhait de la population française de souche est que les musulmans cessent de les voler et de les agresser. Votre commentaire?
Écoutez, Michel Houellebecq est passé de la libre critique d'une religion, et comme il en avait fait usage, comme il en avait absolument le droit, et je défendrai ce droit jusqu'au bout, et il a été relaxé pour ça, à la critique des musulmans à raison de leur religion. Et là, c'est appréhendable sous l'angle du racisme. C'est précisément la distinction que je me tue à essayer d'expliquer depuis des années entre la libre critique des croyances et des propos nécessairement régulés sur la mise en cause des communautés à raison de leurs croyances. Il illustre ça. Alors, que dire de ces propos ? Sous un angle juridique, il appartiendra au tribunal d'apprécier, ça sera délicat, et j'aimerais pas être à la place des juges, si en disant les Français souhaitent que les musulmans arrêtent de les voler, c'est de la prospective qu'il fait et il se demande ce que les Français pensent, ou il fait parler les Français, ou si c'est une fausse figure rhétorique, c'est une fausse distanciation, et en fait c'est lui qui parle. Mais quoi qu'il en soit, et au-delà de cette question juridique, franchement, quand on est l'écrivain français le plus lu au monde, le plus reconnu au monde, un intellectuel aussi fin que Michel Houellebecq, qui porte une parole publique aussi forte, je crois, en tout cas, c'est ma conception des choses, qu'on doit peser ces mots, qu'on ne doit pas participer à l'hystérisation du débat.
Je cite d'autres mots de Michel Houellebecq pour avoir votre analyse, et notamment juridique, sur ces mots. « Quand des territoires entiers seront sous contrôle islamique, je pense, dit Michel Houellebecq, que des actes de résistance auront lieu, il y aura des attentats, des fusillades dans des mosquées, dans des cafés fréquentés par les musulmans, bref, des bataclans à l'envers. »
Ça, ce propos-là ne pose pas de problème juridiquement. Là, il est dans de la fiction, il a le droit de faire de la fiction, il parle de bataclans à l'envers, donc il dit bien, il qualifie bien que c'est un terrorisme pour lui aussi. Donc ce propos-là, à mon avis, juridiquement, il pose pas de problème. Le second pose un problème, parce que là, on passe de la critique de la religion à la critique d'une communauté à raison de sa religion. Or, la généralisation des termes employés par Michel Houellebecq me semble ne pas avoir de sens. Moi, je sais pas ce que c'est les musulmans. Je sais pas ce que c'est les Français. Ça n'a pas de sens. Il participe, en fait, à l'avènement du séparatisme qu'il veut dénoncer. C'est pas de son niveau. C'est pas du niveau intellectuel que l'on peut attendre de lui.
Mais alors, justement, Richard Malka, vous évoquez la popularité de Michel Houellebecq d'abord en France. Est-ce que c'est pas le signe, justement, que notre pays est islamophobe s'il s'est donné comme écrivain national?
Alors, d'abord, moi, je reviendrai toujours sur ce terme d'islamophobie, parce que il faut nommer les choses et il faut bien les nommer. L'islamophobie, c'est licite. C'est légitime. On a le droit d'avoir peur des religions. Ce n'est pas ça qu'il fait, là, Michel Houellebecq. Je vous l'ai dit, il passe d'une religion, de la critique d'une religion, et il a tous les droits sur ce terrain-là, à la critique d'une communauté. Ça, c'est autre chose. Et ça peut dégénérer en racisme. Est-ce que c'est pas le signe que la France deviendrait raciste ? C'est vrai que c'est compliqué pour les musulmans. Ils sont pris entre le marteau d'islamistes qui leur demandent toujours d'aide, qui, pour lesquels ils ne seront jamais assez musulmans, et puis l'enclume de nationalistes pour lesquels ils ne seront jamais assez européens. Je prends cette image à John Tolan, historien qui a écrit un très beau livre sur l'islam du 7e siècle à aujourd'hui. Et l'extrême droite penche du côté de l'enclume et l'extrême gauche du côté du marteau. La gauche n'existe plus et la droite ne dit plus rien. Donc c'est compliqué.
Alors justement, dans ce contexte-là, vous connaissez l'accusation qui a été lancée contre Charlie Hebdo, celle par exemple de trop s'en prendre aux musulmans. Est-ce qu'il n'y a pas une obsession
Mais Charlie Hebdo ne s'en prend pas aux musulmans. Charlie Hebdo critique l'islam. Nous, on ne parle pas des musulmans. Ce que Charlie Hebdo a toujours fait, c'est de se moquer de la vision de l'islam, de l'intégrisme, et cette fameuse une Mahomet débordée par les...
Il faut décrire cette une, notamment la une de Cabu, puisque elle a été déformée aussi dans la mémoire.
C'est Mahomet éploré qui, les mains sur les yeux, dit c'est dur d'être débordé, d'être aimé par des cons. Et le titre, c'est Mahomet débordé par les intégristes. Donc c'est les intégristes qui sont visés. Mahomet, pour le coup, il est du bon côté de celui qui est des gens qui sont éplorés par une vision intégriste, celle dont je vous parlais, qui confisque l'islam et la pensée, et qui est une vision sectaire. Je vous rappelle que les wahhabites qui financent cette vision à coups de pétrodollars, de milliards de pétrodollars depuis des décennies, et je pourrais parler des qataris également, c'est une secte. Elle était considérée comme telle par l'islam dans son intégralité au XIXe siècle. Ils ont profané les tombes des compagnons du prophète. Ils ont profané et détruit la tombe de Khadija, la femme du prophète. Ils voulaient détruire la Kaaba. Et c'est Ahmadi Redissi, professeur de sciences politiques à Tunis, qui parle. C'est une tragédie pour les musulmans eux-mêmes que cette religion ait été prise en otage par les wahhabites et par les salafistes.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a évoqué des attentats déjoués en France. On écoute un extrait du discours du ministre.
La France est toujours la menace de groupes terroristes, de personnes qui peuvent passer à l'acte. Et nous avons déjoué 39 attentats, il ne faut pas l'oublier, islamistes depuis 5 ans. 9 attentats d'ultra-droite depuis 5 ans.
Donc, il y en a eu récemment, ces dernières semaines, ces derniers mois.
Le principe des services de renseignement, c'est justement de ne pas pouvoir divulguer officiellement les informations. Mais il est vrai que la DGSI, notamment, a su interpeller, voilà encore quelques semaines, des personnes qui, tout le monde laisse à penser, la justice le dira, qui pouvaient passer à l'acte.
Qui visait quoi ?
Des intérêts publics ou des mouvements de foule. Il y a en ce moment des marchés de Noël, il y a en ce moment des fêtes religieuses, des fêtes juives, des fêtes chrétiennes. Et puis il y a des mouvements de foule comme ce soir, spontanés ou avec des familles. Et le premier travail du ministre de l'Intérieur, c'est de permettre la fête que permet le football, mais de protéger ces populations. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, la menace, elle est avant tout endogène. C'est-à-dire une menace qui est parmi nous, des gens qui passent eux-mêmes à l'acte sans lien particulier avec des groupes terroristes extérieurs, comme c'était le cas au Bataclan. Ouais. Enfin, il ne faut jamais... puisque la situation reste extrêmement difficile en dehors de notre pays, il ne faut jamais exclure une menace exogène.
Les propos donc de Gérald Darmanin, qui signifie, Richard Malka, que la menace existe toujours, est-ce que ça signifie aussi que les procès, les différents procès qu'il y a eu dans les conditions que l'on sait, avec par exemple votre plaidoirie que vous publiez, Richard Malka, est-ce que ces procès n'ont pas eu un rôle véritable, n'ont pas eu un rôle suffisant? Bref, comment juger de l'action de la justice?
D'abord, personne n'a de baguette magique pour éradiquer le terrorisme. Évidemment, la réponse policière et la réponse judiciaire est absolument nécessaire pour nous protéger, mais il y aura toujours des terroristes qui passeront au travers des mailles du filet. Et si on veut combattre utilement, et ça j'en suis certain, si on veut combattre utilement ce phénomène du terrorisme, la justice, la police, ça ne suffit pas, ça intervient après. Ça intervient pour éviter au dernier moment. Mais si on veut vraiment combattre utilement, il faut combattre par les idées et il faut combattre par la connaissance et il faut combattre par la liberté d'expression et il faut combattre en essayant de faire, et c'est ce que j'ai voulu essayer de faire dans ce livre, en essayant de transmettre du savoir, des connaissances pour convaincre et pour que d'autres se mobilisent. Parce que l'islam changera par les musulmans.
Mais alors justement, par rapport à la liberté d'expression, Richard Malka, il y a différentes raisons pour ne pas critiquer l'islam, comme vous l'évoquez. La première raison, ça peut être la peur, vous l'évoquez. L'autre raison qui peut être invoquée, c'est l'intention de ne pas blesser, et notamment de ne pas blesser un groupe qui est aujourd'hui perçu comme minoritaire ou dominé. Oui. Votre...
Oui. Mais c'est pareil, tout à l'heure je disais de Michel Houellebecq, ça n'a pas de sens de dire les musulmans, mais ça n'a pas de sens non plus de dire les musulmans sont dominés. Je ne sais pas ce que c'est, moi, les musulmans. Vous parlez de qui ? Vous parlez du salafiste, vous parlez du neurochirurgien, vous parlez de l'épicier, vous parlez du sénégalais, du turc, du marocain. Ça n'a aucun sens, ces catégories-là. Mais bien sûr qu'il faut accepter d'être blessé. Si on veut vivre ensemble, c'est la vie, ça. On n'est pas des petites choses. Sinon, il faut aller vivre dans une grotte et puis ne voir que des gens qui pensent exactement comme vous. Être blessé, c'est aussi quelque chose qui permet de réfléchir, de se remettre en cause soi-même. Un monde qui à ce point refuse d'être heurté, blessé, offensé, c'est un monde neurasthénique. C'est un monde où on ne se parle plus. Quand on est blessé, on débat, on discute, et puis si on veut arrêter, on discute plus. C'est exactement l'image de Mahomet pour répondre à la moquerie, et puis on rompt la conversation, mais on ne tue pas parce qu'on a été blessé. On ne fait pas d'attentat parce qu'on a été blessé, et on ne fait même pas de procès parce qu'on a été blessé. C'est la vie ensemble qui produit ça. Et il faut l'accepter, et c'est la richesse de l'altérité.
Mais alors, justement, altérité, vous parlez de messages d'altérité adressés à l'islam dans votre livre. L'islam, vous, votre famille le connaît bien, puisque vous êtes d'origine juive séfarade, ce qui signifie que votre famille a vécu au Maroc, en l'occurrence. Quel était ce mode de vie, cette cohabitation, puisque là, la cohabitation, elle se faisait, et elle se faisait plutôt bien, je crois, entre les juifs et les musulmans à l'époque. En quoi cela a influencé aussi votre regard, Richard Malka ?
Mais forcément, j'ai une affinité à l'égard de ce monde. La langue arabe est une langue que j'ai entendu parler par mes parents. C'est une culture que je connais. C'est une approche méditerranéenne des aides qui est la mienne. C'est un pays que j'aime, le Maroc. Et puis surtout, ce que l'on retrouve, et vous avez raison, pendant des siècles, les premiers siècles de l'islam, d'abord tout le monde participait à la définition de l'islam. Les premiers musulmans, mais aussi les juifs, mais aussi les chrétiens, mais aussi les zoroastriens, c'est-à-dire les perses. Et tout cela se mélangeait dans un cosmopolitisme assez harmonieux et chacun s'occupait de la religion des autres parce qu'il y avait des débats théologiques. Et puis parfois même ils étaient blessés, comme vous dites. Et ben ça les empêchait pas de discuter ensemble et la cohabitation se faisait de manière assez harmonieuse, même s'il y avait des taxes spéciales pour les dhimmis, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas la religion majoritaire. Mais d'ailleurs, les problèmes étaient plus souvent entre chiites et sunnites, très vite, qu'avec les juifs et les chrétiens. En fait, ça se passait mieux pour les juifs, souvent sous domination musulmane, puisqu'ils étaient toujours sous domination de quelqu'un, que sous domination chrétienne. Et quand les sultans ottomans ont recueilli les juifs d'Espagne, ils frottaient les mains. Parce qu'à l'époque, les princes et les sultans n'avaient qu'un objectif autre que militaire, c'était de faire venir à eux les intellectuels, les artistes, les créateurs, et ils avaient des actions de mécénat fort parce que ils savaient que la connaissance, que le savoir, ce serait la base de leur pouvoir, autant que les conquêtes militaires. C'est cet islam-là qu'on a perdu, cet âge d'or de l'islam qu'on a perdu, où effectivement la cohabitation se passait plutôt bien entre toutes les communautés.
Cohabitation, mais pas de mélange, là en l'occurrence, entre juifs et arabes, pas de mariage aussi, commun, par exemple.
Ah si. Bien sûr que si. Ah mais dans l'islam des premiers siècles, dans tous les sens.
Et ça d'après les récits sur le 19e et le début du 20e siècle, à cette époque-là, il n'y en avait pas.
Je suis dans les premiers siècles.
Moi, je suis plus contemporain. Mais ce que je veux dire, c'est que la situation actuelle est une situation où l'altérité est moins forte entre les groupes. Oui. Il y a des tensions, on les voit, mais à la faveur donc de l'évolution de la société, il y a eu aussi un effacement de ces barrières identitaires.
Oui, ben il y a eu, heureusement une intégration des uns et des autres qui se font. Il y a un vivre ensemble qui se construit. Tout n'est pas à ce point catastrophique que le dit peut-être Michel Houellebecq. En tout cas, je pense qu'un intellectuel, ça doit porter un message d'espoir, parce que si c'est que pour dire on va vers les ténèbres, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Alors, message d'espoir, je ne sais pas, mais vous débutez votre traité sur l'intolérance en disant que vous avez souvent plaidé pour Charlie dans les contextes dramatiques que l'on sait. Que vous ne le ferez plus lorsque rétrospectivement vous observez donc ces longues années, puisque la première fois que vous avez plaidé c'était en 2007 avec Georges Kiechmann. Est-ce que vous avez eu l'impression de faire œuvre utile, Richard Malka? Est-ce que ce chemin parcouru vous permet d'appréhender différemment à la fois l'islam et puis la question de la liberté d'expression?
Non, j'ai pas changé sur la liberté d'expression. Je n'ai pas changé. J'ai enrichi ma réflexion forcément, mais je n'ai en rien changé sur ma conception de la liberté d'expression, qui doit être totale et qui doit rester totale et absolue en matière de critique des religions et des croyances. Et qui doit être, le respect, il est sur les personnes, pas sur les croyances. Plus on sacralise une croyance, et on l'a vu, moins on respecte les êtres humains, plus on abandonne les êtres humains à leur malheur, au malheur d'être sous le joug de religion qui les prive de leur liberté, de vision religieuse. Donc ça, je n'ai pas changé. Alors après, j'ai essayé de pousser...
Il y a quand même de la lassitude aujourd'hui chez vous, parce que vous avez la sensation que...
Parce que ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que je plaide sur ces questions-là et que je vois bien que le climat... Et pas que sur l'islamisme et les religions, mais en particulier la nouvelle religion anglo-saxonne ne va pas tout à fait dans mon sens.
Quelle religion
Et ne protège pas vraiment la liberté d'expression. Je parle de la cancel culture, du wokisme et de ces phénomènes-là. Et que, on n'est pas dans un mouvement de balancier très libertaire en ce moment. Mais c'est pas grave, faut continuer le combat, faut semer des graines pour l'après. Et pour le coup, dans cette plaidoirie-là, je me suis éloigné, alors non pas seulement des accusés, puisque j'avais dit que je ne plaiderais pas sur les accusés, mais je me suis même éloigné de mon client Charlie Hebdo, puisqu'en fait, je ne parle pas de Charlie Hebdo. Je parle d'une certaine exégèse de l'islam. Parce que je voulais aller au fond des choses, parce que je voulais essayer d'apporter quelque chose de plus, parce que je voulais essayer d'être utile.
Richard Malka, traité sur l'intolérance, c'est l'ouvrage que vous publiez chez Grasset. Dans quelques instants, le 8:45 de France Culture, le point sur l'actualité.